si vous avez des questions, là, je suis. J'avais prévu une heure.
On parle de la source de Loulier qui a été captée par, enfin, qui a été détournée par les Romains. Dans toutes ces sources-là, ça serait laquelle ?
Celle qui a été captée, c'est cet ensemble.
C'est l'ensemble.
C'est l'ensemble.
D'accord.
Maintenant, la principale, c'est celle-là. C'est là où il y a le bassin, là, c'est S5, S6. C'est qui sort là. Ça, c'est une source adjacente. Mais en part, je pense que c'est.
D'accord.
Oui, c'est celle-là qui a le débit constant. Et celle-là.
Un débit plus aléatoire. C'est les deux où je montre la photo là, qui est en contre-jour. C'est l'intérieur du bassin qui est maintenant bétonné. Et on voit le rocher avec une strate et puis il y a deux fils d'eau.
C'est celle-là. C'est celle-là qui a été captée par en dessous.
Alors captée, on le voit parce qu'il y a, si je fais la diapo de les archéologues, là où il y a les galeries. Mais là, il y a deux galeries à Loulier qui ont été faites. La galerie de droite, elle est active. Il y a une arrivée d'eau permanente. Il sort de l'eau de la galerie et puis ça rebondit, ça concrétionne. Elle est magnifique. Et donc même le concrétionnement a masqué le travail qui a été fait par les Romains.
C'est impressionnant. Ouais. Parce que l'humain a travaillé dans cette galerie, les marteaux-piqueurs. Aujourd'hui, on ne voit plus les traces de marteaux-piqueurs.
Ça va très vite. Ouais. Et on finit par un laminoir, comme ça, on peut se demander si on ne pouvait pas rejoindre. Mais là, il faudrait peut-être prendre la diapo où il y a les galeries. C'est bien avant.
Allô ?
Ah non, c'est après.
C'est vous après ?
Oui, c'est après.
Je crois qu'il y a une question.
Oui. Oui, monsieur, merci de tout ce que vous nous avez dit et qui témoigne de votre passion pour votre territoire, tant ce qui coule dessus que ce qui coule en dessous, puisque vous êtes aussi spéléologue. Vous nous avez fait comprendre qu'un cause calcaire, ça s'infiltre partout, ça fuite partout. Et que l'eau est un élément essentiel de la vie de ce pays, parce qu'elle est partout, mais qu'elle est difficile à trouver, que cette eau a eu une importance historique, en fait, puisqu'elle a peut-être conditionné une partie de l'histoire dans l'Antiquité. Alors, certes, le cause de Martel et le cause de Grama se ressemblent furieusement, puisqu'il y a des trous. Il y a des dolines, il y a des digues, il y a des rivières souterraines, il y a des résurgences, il y a des exurgences. Et de temps immémorial, l'homme a eu besoin de l'eau, il en a encore besoin maintenant. Alors, certes, autrefois, on balançait les dépouilles d'animaux dans les digues, on répandait le fumier de temps immémorial. On allait même vider son sous hygiénique dans le potager au fond du jardin, tout ça c'était de l'organique. Or, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que cette eau que vous aimez est en danger actuellement, tant sur le cause de Martel que sur le cause de Grama. Et pourquoi ? Parce que tout a changé, il y a maintenant sur ces territoires des épandages provenant de un procédé de méthanisation industrielle que je ne vais pas développer ce soir, mais ici, je suis un des animateurs d'une association qui pose beaucoup de questions et qui alerte sur cette question. Donc nous sommes en face d'épandage, on est moins dans l'organique et beaucoup plus dans le minéral. Ce qui est épandu, c'est ce fameux digestat qui n'est même pas homologué. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur, non pas le principe de la méthanisation, parce que la méthanisation est un procédé ancien pour lequel il n'y a pas nécessairement lieu d'être contre, Mais avez-vous un sentiment à donner, des conseils à donner, à nous donner, sur ce qui se passe, ce qui se répand et ce qui s'épand actuellement sur cette terre fissurée de partout et qui menace l'existence de notre eau? Merci, monsieur.
On va s'éloigner du sujet de l'oublier. Je préférerais que ça va bien plus tard.
On
s'est loin du sujet principal, mais bon, on est bonne vue. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'organisation, mais bon, c'est vrai que j'ai été sollicité.
Après, s'il te plaît, approche-le.
J'ai été sollicité après coup par l'administration sur un sujet que je connaissais, donc j'y suis allé. Je ne connais pas, je ne vais pas. Et donc, c'était sur le bassin versant de la castanière, la source que je vous ai montré, le fourrage. Le ruisseau, là, et puis autour, c'est le fourrage qui a été fermé à l'ouest. Donc, cette source de la castanière, un bassin versant, qui est différent de celui de la cour de la pisciculture. Ensemble, ça fait 88 km, je vous l'ai dit, c'est ensemble. Donc, j'ai été sollicité après coup, parce que j'ai des étudiants de contact qui ont été faits pour M. Averdé, qui a différents miracles. Donc, c'est pas assez fort encore. Merci le marché.
Alors, je m'en crois. Ils sont très précieux, monsieur. Le... Pardon, Laurent.
C'est ça, que vous êtes heureux.
Mais,
l'organisation de M. Boucher, voilà, a été déposée. Elle a demandé de faire une analyse biologique. Avec un gars du terrain qui fait des mots, qui vient dans la croix et qui connaît les terres, parce qu'il y avait son oncle qui avait eu des terres pour se passer à l'instant. Donc on a parcouru les collines, on a parcouru les collines qui étaient contenues dans le bassin versant des sources. On n'a pas parcouru les tendues, les plans d'épandage qui recoupent les communes. Donc les gens aussi, les gens connaissent aussi. Moi j'ai ciblé le bassin versant qui a été défini par d'autres hydrogéologues, on l'a vu. Et donc notre travail en tant qu'hydrogéologue, c'est de donner des zones à exclure, à exclure. Donc effectivement, on a trouvé une zone qui était une façon dissymétrique des bassins versants d'un côté, en tout faible, et terminée contre le prochain, pour avoir une pente verticale, mais en direction de la source. Donc c'est là, on a exclu l'îlot de parcelle en disant là, bon, près de la source, ça peut y aller plus rapidement et aller dans le bassin versant. Après, il y avait d'autres. Bon, j'étais suspendu, c'était des douilles, c'est la plupart du temps. Les épandages, c'est l'arrivée du sol. Donc, il y avait des pressions, des vallées sèches, des douilles, c'était que des douilles. Et donc, les douilles, il y a des plantations de noyers et donc, des truffes. Justement, la truffe, c'est de l'or, c'est incroyable, sur la commune de Cuisance. Mais j'ai bien fait. J'ai redécouvert la commune de Cuisance. À cette occasion, j'ai trouvé un vin, vraiment un rose de truffier thé, en août, ça pousse. On dit que c'est un des ouvrages à Nicolas. Donc, on a exclu, ils ont vraiment suivi, ils ont exclu cette vue. Donc, moi, j'ai fait ça. Et puis après, c'est tout. C'est tout. Moi, après, j'ai entendu parler, comme tout un chacun. J'ai lu le journal, j'ai vu que sur Rama, il y avait un souci avec un dimensionnement qui était tout autre que celui de Mérac. Donc j'en ai parlé à SBDO, j'ai parlé à Michel, j'en ai parlé à un collègue qui est un géologue, Pélissier, Thierry Pélissier, qui m'a envoyé un mail pour qu'il me donne son avis. Moi je lui ai dit, les principes de méthanisation, tout ça quand même, parce que. Des mots qui sont très organiques, plein de bactéries, on les envoie dans la nature, mais de façon minéralisée. Donc on dégrade la matière organique, et c'est tout minéral, c'est tout minéral depuis d'abord. Donc il m'a dit oui, c'est vrai, moi aussi, je suis d'accord, mais il y a une question de dimensionnement. Et j'ai bien compris en parlant avec Michel Espiret qui connaît la Capelle. Donc c'est la Capelle, c'est ce secteur. Moi je suis. Presque, je suis de poisson au poids, tout en revient.
Donc, l'entreprise à Capel qui collecte énormément de déchets sanitaires et qui fait dans le projet de méthanisation, mais sur les étendues et sur les quantités de matière organique, notamment des déchets organiques, des abattoirs de palipèdes, tout ça. Donc là, ça prend une dimension et puis peut-être que là, il faut mettre un volant, effectivement. Plusieurs soucis. La cause de Martel est quand même différente de cause de Drama. La différence, c'est que la cause de Drama est vraiment ouvert au sous-sol. Donc il y a des gouffres, il y a partout des gouffres verticaux. Il n'y a pas de dépôt d'argile de sable, si vous voulez dire. Sur le Martel, il y a une couverture qui protège. Elle protège en surface et puis elle est entraînée en profondeur. Toutes les fissures et les vides sont remplies de cette argile de ce sable, en proportion. Peu importante, hein. pas de l'importance que M. Camus a donné une énorme importance à ce capacité politique, à tel point qu'il a fait la réserve d'eau. Donc là, la réserve d'eau n'est pas en route. Mais ça protège. C'est pas un aquifère du Clos de Martel qui est captif, donc protégé par un permien, mais il y a quand même cette ouverture qui ralentit. Il ralentit les vitesses de déplacement de l'eau depuis jusqu'à la source. Donc plus ça va lentement, et mieux c'est. Parce que la matière organique qui reste se dégrade. On dit au bout de 60 jours, un captage au milieu pour eux, bien sûr qu'il y a beaucoup de science. Mais en milieu plastique, ça peut être régulier, effectivement. Mais là, on a des vitesses en moyenne de 30 mètres. Je sais qu'il y a des vitesses très grandes qui sont de 200 mètres par heure, dans une période très crue, très forte, mais à partir des pertes directement sur l'axe de circulation. Donc, tout ça, c'est étudié. Toutes les zones où il y a des pertes, c'est exclu de tout épandage. Pour protéger de source, il y a le périmètre immédiat, le périmètre rapproché et le périmètre éloigné. Le périmètre immédiat, c'est les installations. Les gens n'entendent pas les pompes et tout. Et le rapproché, celui qui est important, c'est là où il y a des contraintes, les agriculteurs. Et donc, se rapprocher dans le milieu karstique, il peut avoir des satellites. Donc, le rapproché, ça veut dire autour seulement, mais ça peut être des satellites. Les satellites, c'est les zones de perte. Par exemple, c'est pas moi qui l'ai décidé, celui-là, mais sur le projet de la cour, la perte du courant, on a fait le passage. Ça pourrait être une zone satellite, et ça a un périmètre rapproché. C'est pas moi qui ai décidé. Périmètre rapproché, ils ont pris les combles autour, tout ça. Mais par contre, c'est un hydrogéologue, c'est un hydrogéologue de l'Ecosse, qui s'appelle la Neuvienne. Là, il a donné des restrictions dans toutes les olives. À tel point que son avis n'a pas été suivi parce qu'il est insuivable. Parce qu'il y avait trop de contraintes. Donc, la procédure n'est pas partie. Le mise aux normes, c'est le cas de l'Ecosse. J'essaie de répondre avec ce que je sais, mais sur la méthanisation, on ne sait pas plus.
Merci, monsieur. Mais c'est peut-être tout. Si vous voulez, mon propos a été de lier les deux. Puisque... Merci.
Oui, mon propos a été de lier la question de l'eau avec ce que vous nous avez appris scientifiquement. Donc, on s'est un peu enrichi ce soir. Il faut se dire que l'eau coule partout sous nos pieds et qu'il faut qu'on la préserve.
D'accord. Merci. Monsieur Favre, j'ai vu dans la déclaration d'utilité publique que vous avez demandé à M. Laverté de retirer certaines parcelles de son plan d'épandage qui menaçaient dans les infiltration pour les menacer, je crois, ces fonds pour les îles, l'implantation de pompage. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié votre action d'hydrogéologue et de connaisseur de ce milieu. Maintenant, la question qui se pose, vous avez montré qu'il y a 7 zones d'aquifères différentes dans l'ensemble du Clos de Martel. Alors maintenant, est-ce que les épandages qui vont avoir lieu, est-ce qu'ailleurs, ça ne risque bien? Est-ce que, par exemple, les captages de l'île, par exemple, le risque
pas d'être contaminé aussi par certains épandages digestats. Parce que maintenant, M. Lavernet va faire des épandages digestats et non pas seulement de compost. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette situation générale?
Oui, je me suis posé la question, où allait l'eau des autres communes? Parce que, effectivement, des sources majeures, il n'y en a pas. Saint-Sauzy, si on connaît une source, Saint-Sauzy, c'est la source du Roquemonge. La source du Roquemonge. Après, le long de la Dordogne, il y a aussi une source appelée Sac, Béraguet, pas de Béraguet, des petites sources, des sources mineures.
Il y a un nouvel aussi.
Mais ce n'est pas des sources AEP, ce n'est pas des sources majeures. Bon, moi j'ai ciblé le plus important. Avec une enveloppe, je dis, ils avaient le moyen qu'ils avaient. Moi, c'était une mission, je peux vous dire le prix, 1600 euros. J'ai travaillé 10 jours.
Qu'est-ce qu'on appelle une source majeure?
Je l'avais dit au début, c'est des sources qui font au moins un débit de 50 litres par seconde.
En moyenne, toute l'année?
Oui, moyenne annuelle. Avec des pointes en mètres cubes. Des pointes, c'est très grand mètres cubes. Ça peut être jusqu'à 10 mètres cubes à la crue exceptionnelle du labo. Ça, c'est un autre sujet, le labo,
vous voulez. Vous savez si sur le Gramma, un hydrogéologue a donné son avis aussi?
Non, je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Je ne sais pas parce que moi, je suis hydrogéologue coordonnateur.
D'accord.
Pour uniquement les captages d'eau potable. Et ça va plus loin, c'est aussi pour les stations d'épuration et ça peut être aussi pour les extensions de câbles. Parce que là, j'ai une demande. Hein. Il faut qu'on ait une équipe de 6 ou 7 et moi, je suis le dispatch. Moi, je peux prendre un dossier, mais c'est tombé. Donc, c'est pour l'extension de cette carrière aujourd'hui.
En tout cas, moi, je suis historien géographe d'abord. Bravo pour vos explications scientifiques en tant que géographe sur le Karstique. En tant qu'historien, moi j'ai été aussi frappé par la toponymie sur les cartes que vous nous avez présentées, porte de Rome, les temples, etc. L'historien que je suis s'intéresse aussi bien sûr au présent. Effectivement, bon, on s'inquiète. Vous avez parlé de surdimensionnement, vous avez parlé de soucis pour le méthaniseur de Gramma. Il y a eu un incident récent, je pense que tout le monde connaissait à Villiers, et il se trouve que, je parle sous le contrôle du conseil municipal de Bouvalon, je crois qu'après cet accident à Villiers, les eaux de Montvalon ont été débranchées d'approvisionnement normal.
Le captage de la Finou sous Montvalon a été déconnecté et branché et la distribution d'eau sur Montvalon et à Lignac a été connectée sur le réseau du LIMAC. Puisqu'il y avait une suspicion de danger, les 400 mètres cubes qui se sont déversés à Lignac étaient sur le parcours et sur le déversement des eaux pluviales et autres vers le bas de la rivière de Padirac qui arrive précisément dans le bas de Montvalon. Donc c'est pour ça que ça a été, alors je ne sais pas si c'est rétabli à l'origine, mais les spéléologues, les hydrogéologues savaient que ça allait partir et c'est d'ailleurs été englouti, ces 400 mètres cubes ont été engloutis très vite dans deux dolines voisines. Et d'autant mieux englouti, c'est qu'il y a eu des centaines de milliers de litres qui ont été déversés pour nettoyer l'entourage, donc ça a bien dilué ça, et ça s'est encore mieux infiltré. Bon, tout ça pour dire que nous sommes inquiets de ce qui se passe et de cette industrie. Nous ne sommes pas venus ici, je ne suis pas venu ici pour faire une conférence sur la méthanisation, mais il était question d'eau ce soir, voilà.
D'où vient l'eau de l'œil de la Doue?
L'œil de la Doue,
oui.
C'est un sac, je vais faire que c'est un sac.
Là-bas
Je fais le découpage, là. Mais en fait, c'est un sac et l'Ignac, c'est le centre de l'école de Nantes. Et c'est des points hauts.
Et c'est de là que part le bassin, karstique. Et l'œil de la Doue, oui, c'est très ancien. On monte jusqu'à 1550. Hein. Avant, quand j'étais étudiant, donc c'était en 78 que je commençais, sur le boulevard de la Doue, les gens se posaient des questions, je connais où. Donc les questions, c'était les Saint-Denis de Brive. Parce que quand les gens allaient à Brive, il y avait l'orage sur Brive, ils revenaient, il y avait la pluie. Donc Gignac est entré, c'était pas faux. Donc c'était une bonne orientation. Après, il y en a d'autres qui disaient, ça vient du massif central. C'est un abandon étant cru. Il y en a d'autres, après c'était coupé, c'était de la paille. Ils avaient retrouvé de la paille. Et, au moment des foins, mais par contre, donc après on a fait les limites, on a fait le passage à Quignac, donc on allait beaucoup moins loin que ce qui était prévu. Quoi. On a tendance à vouloir la chercher très loin. Quoi. Alors, quand c'est des rivières comme ça qui naissent sous nos pieds, on a trouvé la limite. La limite. Mais ce qui était sûr, c'est que les gens étaient sensibles entre le poulet et le blacour, pour certains domaines. Et c'est au courant. Il y a l'alternance de fonctionnement entre le boulet et la boue, mais ils sont présents. Parce qu'ils voyaient le sortir, c'était à côté de chez eux, et quand ils se voyaient au marché à Souillac, ils disaient, tiens, il y a le boulet qui est sorti. Et l'autre, qui venait de la boue, il disait, non, le boulet n'est pas sorti. Et puis l'autre, c'était la. Donc, ce que les gens, moi, j'ai interrogé tout le monde. C'était très important d'interroger les riverains, c'est de l'observateur quand même.
Avant, il y avait une rivière en surface entre Cressensac et la Tourmente.
Oui, qui part de Cressensac du cimetière.
On voit bien la vallée de.
Voilà. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'écoulement souterrain, il y avait l'écoulement de surface. Et moi, j'ai expliqué la thèse, après, ça a été repris par des géomorphologues, et puis, avec des datations plus précises. Parce que moi, je n'avais pas de datation, mais je me disais un schéma. C'est-à-dire que. Il faut gommer les vallées profondes, on est plus au quaternaire, on est au tertiaire. Et là, la mer est partie, mais il y a les grands cours d'eau divagants, c'est les anciens auteurs qui disent ça, qui a déposé des sables, des argiles, et puis le substratum calcaire, et surtout le crétacé qui est calcaire, les calcaires sableux, s'est dégradé. Et tout ça, ça fait.
Les argiles et les sables. Là, vous avez un échantillon.
C'est le sidérolithique. Ça, c'est une très belle pierre. Chaque pierre a son histoire. Alors là, c'est des morceaux de fer soudés avec du sable et des petits éléments calcaires et puis des petits bouts de fer aussi. Donc, ça, c'est le fer, ça s'est formé en climat, et ça se forme en climat tropical, chaud. C'est un regroupement de la matière. Il est diffus, le fer, il se concrétionne. Donc, c'était à une époque, au tertiaire. Donc il y avait un climat tropical. Donc là, ça a imperméabilisé les calcaires. Et donc après, quand le ruissellement s'est fait, que les cours d'eau, les grands couloirs d'érosion sont formés, les vallées ont commencé à se marquer, le ruissellement était partout. Parce que le karst était masqué. Il n'y avait plus de karstification. Il n'y avait plus de différence. Donc les vallées sèches se sont faites. Le réseau fluviatif, tel qu'on le connaît, s'est développé. Mais en se développant, il a pris cette argile et ce sable, il l'a amené plus bas. Donc il a mis le calcaire à lui, et donc il a favorisé l'infiltration. Donc l'infiltration s'est développée au dépens du ruissellement. Et maintenant, le résultat actuel, c'est qu'on a une superposition, qui n'est pas exacte, mais qui est quand même assez nette, entre les bassins versants de surface, donc les vallées sèches, que parlait monsieur, celle qui vient de Cressensac, ça, qui va jusque la rue de la Doue.
Ça s'appelait le Fillon.
Ouais. Et on a parlé le boulet. Le boulet, la vallée sèche du boulet, monte jusqu'à Saint-Bonnet, voire Gignac, et donc en dessous, les aquifères persistent. Donc c'est un indice, une super condition. Mais moi je comprends l'angoisse de qu'on a par rapport au modernisme, mais en même temps, l'énergie, moi je suis en train de faire une petite station solaire, j'ai déjà restauré un bâtiment en pierre, et puis j'ai mis des panneaux solaires. Je suis pour le vieux, le rustique, vous viendriez chez moi, vous ne verriez que des pierres, pas de briques, pas de parpaings, très peu de chaque, je suis de chaque, de plat, la chaude. Mais en même temps, j'ai les panneaux solaires. Voilà. Parce que l'énergie, oui, c'est quoi? C'est la radioactivité. D'accord.
Le soleil.
Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous sur cette recherche de l'énergie propre, de l'énergie.
De l'énergie non métallisante pour l'avenir. Il reste quand même que là, on est en face d'une opération industrielle qui n'a pas vocation écologique.
Oui, mais
on est bien d'accord. L'usine de Marna, puisqu'il s'agit d'elle. L'usine de Marna, puisqu'il s'agit d'elle.
La dimension.
La
dimension. Il faut que ça reste à dimension humaine et gérable. Ne serait-ce que pour le déplacement des épandeurs, des tracteurs.
Exactement.
Parce que les tracteurs qui roulent partout, là, c'est tout le monde qui en pâtit, ça défonce les routes et tout. Donc l'épandage, il faut qu'il fasse dans une zone réduite.
Voilà. Et c'est sur ce problème-là.
Sur donc, la zone qui est. Et c'est vrai que le calcaire de Tama est particulièrement vulnérable.
Et c'est sûr que ces thèmes-là, c'est-à-dire les dangers actuels et futurs, que Tama et notre association, qui est là pour lancer des alertes, pour poser des questions et aussi pour obtenir des réponses. Donc il ne s'agit pas d'être contre. Nous ne sommes pas, comme ça a été dit au lieu du documentaire, nous ne sommes pas des écolos robots maniaques.
Oui, je suis d'accord, mais j'ai toujours écouté les associations. Je suis au Cotter, ça a l'habitude, mais j'ai à côté de moi les associations de l'environnement.
Bon, peut-être, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Vous m'entendez?
Non.
Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? On peut. Alors d'abord, je pense qu'on peut remercier M. Jean-Paul Favre.